Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, c'est plus exactement Henriette Walter que vous retrouvez dans cette émission puisque c'est elle qui anime cette série de 20 émissions établies en partenariat avec notre partenaire, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Henriette Walter est professeure honoraire de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Alors je précise que dans une première émission qui est disponible sur Canal Académie, elle a établi les différences entre une langue, un dialecte et un patois, que dans une deuxième émission, elle nous a précisé les grandes divisions géolinguistiques de France et en nous expliquant par quel procédé on arrive à établir toutes ces aires géographiques, c'est pas si simple, et que les 18 émissions suivantes porteront chacune sur une des langues régionales de France. Alors cette fois-ci, c'est le basque, langue vénérable s'il en est. Bonjour Henriette Walter.
Bonjour. Alors quand on parle du basque, la première question que tout le monde se pose est d'où ça vient ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette langue ? Alors malheureusement, je ne vais pas vous dire d'où elle vient.
Malheureusement. C'est encore un mystère.
Ça reste un mystère parce qu'on l'a comparé à des tas de langues différentes. Chaque fois, on s'est dit « Ah, ça ressemble un petit peu à la langue des Ibères ». Mais malheureusement, la langue des Ibères, on ne la connaît pas très bien. Donc, on la connaît encore moins bien que le basque. Parce que le basque, tout de même, c'est une langue qui est encore vivante aujourd'hui, tandis que l'Ibère s'est terminé depuis longtemps.
Et le basque, c'est parlé, mais par exemple, est-ce que vous connaissez des linguistes basques dans vos relations ?
Bien entendu. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup parlé avec mon collègue Koldo Michelena, qui est mort maintenant, et à qui justement j'avais posé la question en lui disant « Dites-moi, est-ce qu'il y a une des théories, celle qui fait ressembler le basque au hongrois, au japonais, aux langues amérindiennes, aux langues du Caucase ? Est-ce qu'il y en a une qui est un petit peu plus valable que d'autres ?» Il me dit « Non, non, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Peut-être que celle qu'il faudrait peut-être creuser un peu plus, c'est la ressemblance avec les langues du Caucase. »
Bien, voilà un programme que nous n'allons pas aborder dans les médias. Mais
alors,
donc,
voilà. Donc, on ne sait pas.
La sphère géographique du pays, de la langue basque, ce n'est pas très compliqué.
Voilà, aujourd'hui, le basque se partage entre la France et l'Espagne, un territoire beaucoup plus important en Espagne qu'en France. Mais en fait, elle s'étendait autrefois beaucoup plus loin que dans le Pays basque actuel. Et je vais en parler plusieurs fois dans toutes les émissions. Ça, c'est ce qu'on voit dans les toponymes. Car on voit que
les noms de lieux, exactement.
Toponyme, ça veut dire nom de lieu. Et puis il y a oronyme, qui est nom de montagne. Et puis il y a hydronyme, qui est nom du fleuve et des cours d'eau. Odonyme, qui est nom des chemins. Chemins, des rues, etc.
Il faut avoir fait un peu de grec et ça va tout
seul. Et ça va tout seul. Et donc, on est tout content
c'est
de
peut-être
de les
plus
dire.
Facile d'avoir fait du grec que du basque. Donc, ce basque,
on le trouve là, hors du Pays basque actuel.
Et c'est-à-dire dans l'Ariège, par exemple ?
C'est-à-dire dans les Pyrénées-Atlantiques, l'arrondissement de Bayonne et une partie de l'arrondissement d'Oloron. Ça ne fait pas beaucoup, c'est tout petit. C'est tout petit, le Pays basque. Cette langue est extrêmement ancienne. On dit qu'elle est très ancienne. Et comment sait-on qu'elle est très ancienne ? Alors là, il faut reprendre un petit peu le Debello Gallico, c'est-à-dire la guerre des Gaules de Jules César.
Que nous avions appris quasiment par cœur.
Par exemple, et qui dit très très vite, la Gaule est composée de trois peuples différents ou de trois régions différentes, du nord au sud, la Belgique, la Celtique et l'Aquitaine. Or, on pense que cette Aquitaine, qui est le pays dans lequel il dit que les gens parlent d'une façon extrêmement différente de la nôtre, c'est-à-dire du latin, où ils ont un mode de vie très différent, et leur apparence est également différente, et on pense que les Basques sont les lointains descendants des Aquitains. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire. On pense donc qu'elle est là au moins depuis le début du premier millénaire avant Jésus-Christ, puisque les Gaulois, qui sont les premiers Indo-Européens à être arrivés, ou premières personnes parlant l'Indo-Européen qui sont arrivés vers le milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc, un petit peu avant. Et là, c'est ce qu'il y a de terrible avec le basque, et ce qu'il y a de très frustrant, c'est qu'on pense que cette langue est très, très, très ancienne, mais on n'a aucun moyen de le vérifier.
Il n'y a pas de texte ?
Il n'y a pas de texte. Les premiers mots écrit sont des mots du Xe siècle.
C'est très tard.
Après Jésus-Christ. Très tard. Et ces mots sont presque incompréhensibles. Et le premier livre écrit en basque date du milieu du XVIe siècle. Autrement dit, pour faire l'histoire, on n'a pas ce qu'il faut.
Donc c'était une langue orale, avec une transmission orale.
Voilà. Et donc, comme
peut-être beaucoup... secrète aussi un peu.
Peut-être que c'est un petit peu comme les druides, vous savez, comme les Gaulois. Les Gaulois qui aimaient beaucoup le secret et qui n'aimaient pas écrire. Voilà pourquoi le Gaulois est si mal connu. Donc, on a ça en 1545. Autrement dit, on a un petit texte comme ça, qui est un recueil de poésie. Pas de texte écrit, mais on a quelque chose qui nous reste de l'ancien temps, qui est une tradition basque. C'est celle des... J'allais dire des conteurs, ce ne sont pas vraiment des conteurs, ce sont des improvisateurs. Ces gens que l'on appelle les Bartsulari, qui sont donc des personnes à qui le public donne un thème
qui font concurrence.
Et chacun fait un texte et tout le monde est très content et c'est extrêmement vivant.
Rejoignons maintenant John Yurebasso qui va nous réciter un poème de Joseba Sarionendia intitulé « Emen Gaudé ». Clément Moutier proposera ensuite sa traduction en français.
Le poème s'appelle « Hemen gaude ». Agian, hasiera bertan, ekibokatu ginen, mundura euskaldun sortzean. Eta gero, ezkenuen iraultzaren borrokatik, apartatzen jakin. Esnakantu bat abestu genion, zehazka utxari. Eta goiz batez, elportoko kartzelan esnatu ginen. Maite genituen gauzengatik erori ginen preso. Baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Zorionez edo zori gaitez, anitz ekibokatu ekarri ginturzen, dezerriko azken ipurde hontan, bizi edo hiltzera. Eta bizi, ez du, larri, ia mirariz gainbizi gera. Eta bizitza ez da guretzat egundu izango, lehen zen bezalakoa. Arrezkero, maite genituen gauzengatik erori ginen preso. Baina, gure maitasuna oraindik ez dago preso.
Peut-être nous sommes-nous trompés à l'origine, lorsque nous sommes nés basques, et ensuite nous n'avons pas su nous écarter de la lutte de la révolution. Au berceau vide, nous chantons une comptine, et un matin nous nous réveillons à la prison de Puerto Santa Maria. Nous sommes tombés prisonniers pour les choses que nous aimons, mais notre amour n'est pas encore prisonnier. Par chance ou par malchance, bien des choses nous ont conduites dans cette partie du monde pour vivre ou mourir. Et nous vivons, difficilement et presque par miracle. Et depuis, notre vie est bien peu de choses. Ce n'est pas celle d'avant. Nous sommes tombés prisonniers pour les choses que nous aimons, mais notre amour n'est pas encore prisonnier.
Clément Moutier, en fin d'émission, vous permet d'écouter quelques extraits de chansons en langue basque, mais pour l'heure, retrouvons Henriette Walter.
L'ancien président de l'Académie basque, qui s'appelait Jean Arichelar, disait que la langue basque est une langue résistante. Et en effet, quand on y réfléchit et qu'on voit toutes les invasions qui se sont produites tout autour du pays basque, on voit que le basque a résisté à toutes les invasions. Il y a eu d'abord les Gaulois, puis les Romains avec le latin. Il y a eu les Germains, les tribus germaniques avec les Suèves, les Visigoths et les Vandales. Vandales qui ont continué d'ailleurs, qui sont allés ensuite vers l'Afrique du Nord. Bien sûr, la conquête arabe. Et puis après, il y a eu la montée du castillan d'un côté et celle du français de l'autre. Et le basque est toujours là, vivant et continue à résister.
Ben voilà.
Voilà, c'est presque un modèle. Alors, on peut diviser les dialectes basques en trois parties. Il y a le navarrais autour de Saint-Jean-Pied-de-Port, où le mot port ne signifie pas port, hein, ça signifie le col, puisque c'est une montagne. Le labourdin autour de Bayonne et le soultan dans la région de Mauléon. Et c'est ce dernier qui est peut-être le plus original, car on y trouve à la fois des archaïsmes et des nouveautés. Archaïsmes avec peut-être cette consonne H de horri, qui signifie la feuille, ou de hilargi, excusez-moi, mais je ne parle pas le basque, donc peut-être je prononce très mal, ça va vexer tous les bascophones. Ce H se prononce comme une vraie consonne, un petit peu comme en anglais ou en allemand. Pas du tout comme en français où c'est rien du tout. Le H n'est qu'une impossibilité de la liaison.
Voilà.
Et de l'élision.
Pour compliquer les liaisons.
Pour compliquer, simplement. Voilà. Il y a des innovations également, avec peut-être une influence des langues romanes qui l'entourent, et en particulier la voyelle U. La voyelle U que l'on ne trouve pas en espagnol, par exemple, mais qui se trouve en basque, contrairement aux autres dialectes qui l'entourent. Qu'est-ce qu'on va prendre comme trait particulier? Un des traits le plus amusant pour un phonéticien, c'est l'existence de ces trois S. Alors, je vais dire trois S, mais en fait, ce n'est pas trois S. Il y en a un, il y a une consonne qui est proche du S français, comme je viens de le prononcer. C'est-à-dire avec la langue plate et de l'air qui passe. Bon. Un autre S est proche de la prononciation du castillan. Du castillan, c'est un S. Avec la langue qui est un petit peu relevée, un petit peu comme pour les Auvergnats. Ch. Et puis une troisième consonne qui est proche, elle, du ch français, carrément ch. Et on a le mot chagou qui veut dire petite souris. Et là, je dis bien petite souris et non pas souris, car souris se prononce pas avec un ch. Ça se prononce avec un s, avec l'autre consonne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, on voit qu'il y a une autre caractéristique du basque qui se révèle là, c'est le fait de prononcer les mots de façon plus en avant dans la bouche. On dit qu'il palatalise, c'est-à-dire que c'est prononcé à la hauteur du palais dur, et que c'est une façon de prononcer des mots affectueux. Pour dire que la chose est petite et très gentille et très mignonne. On appelle ça des hypocoristiques, avec un mot grec très joli, qui exprime non seulement la petitesse, mais aussi l'affectivité. Et on pourrait même le donner avec des noms de personnes, pour dire que c'est une grande personne, elle aurait peut-être un mot avec la prononciation « se », mais si elle est toute petite, on va dire « ch ». Des choses de
donc
ce genre-là.
Nuances de prononciation.
Des petites nuances de prononciation, mais qui
correspondent au sentiment.
Voilà, et qui permettent de faire du basque une langue très amicale, nous disons, puisqu'il y a beaucoup de ces « ch » qui permettent de le dire. Vous avez par exemple « soco », qui est le coin, et un petit coin très agréable, ce serait « choco ». Vous voyez, « ce »,« soco », »,« choco ». Il y a d'autres curiosités, des verbes impossibles à apprendre et des noms qui se déclinent en 12 cas. C'est affreux pour nous. Hein. 12 cas, c'est un peu beaucoup.
Rare,
hein.
Oui.
Vous vous rendez compte, en latin, il y en avait que 6. Hein. Et oui, déjà, c'est difficile. Voilà donc pourquoi la langue est tellement intéressante, disons, et qu'il faut qu'elle continue à vivre comme elle continue
d'ailleurs. Est-ce que c'est une langue avec un vocabulaire très nombreux, très riche?
Alors, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a une partie de vocabulaire qui est très ancienne, et puis une partie qui a été empruntée au latin, puisque le latin était là. Hein. Par exemple, vous avez le mot « baque », qui signifie « la paix », et on reconnaît dans « baque » le mot latin « pacem », la paix. Et puis, on a le mot « tempora », qui est le temps, « tempora » en latin. Vous avez « lore » pour la fleur, donc ce serait « florem » latin. On a des choses, mais il faut
des influences.
On a quand même du mal. Et puis, il y a des emprunts au castillan, bien sûr. Par exemple, « pantalla », l'écran. Ça vient du castillan « pantalla », qui est vraiment qui est l'écran également. « Pesquisa », qui est la recherche, du castillan « pesquisa », du gascon et du béarnais, parce que, évidemment, de l'autre côté, du côté de la France, on a également le « toupin » ou le « tupin » en français, le « toupin » en gascon, veux-je dire, bien sûr. Et puis, du français, on a, par exemple, le « biberoy », qui est donc le biberon, ou le « garaya », qui est le « garage ». Il y a quelque chose d'intéressant à étudier aussi, les patronymes. Le plus souvent, en français, les patronymes sont des noms de métiers,
oui.
Mais pas en basque. En basque, c'est plutôt des noms de lieux, des noms de maisons, des noms de montagnes, des choses de ce genre-là. Par exemple, Arangori, c'est la vallée rouge, ou Val d'Aran, où on voit que là, il s'agit d'une tautologie. Car Val, c'est le latin Valem, Wallem, qui veut dire la vallée. Et Aran, eh bien, c'est le même mot.
C'est la vallée.
La vallée.
On le dit deux fois pour être sûr qu'on n'est pas ailleurs.
Exactement.
Dans la vallée.
Et voilà. Ça, on le retrouve dans beaucoup de pays où il y a deux langues qui sont en concurrence, disons, et où on veut être bien sûr qu'on comprend de quel endroit il s'agit. Alors, je voudrais terminer par quelques célébrités basques.
Quelques basques célèbres, oui.
Célèbres, hein, c'est intéressant. Alors, il y a Albéniz, qui est mort à Cambo-les-Bains, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a, mais peut-être que les gens ne les connaissent plus du tout, parce que bien sûr, il est mort depuis longtemps, Jean Borotra, qui était un grand champion de tennis, qui a été surnommé le Basque bondissant, car il était excellent. Maurice Ravel, qui était né dans le Pays Basque également. Et enfin, un nom basque devenu un mot de la langue française, Silhouette.
Donc la langue a emprunté au basque.
Oui, mais un nom propre. Mais oui. C'est un nom propre. Silhouette. Silhouette était le ministre des Finances de Louis XV, qui avait été rendu impopulaire auprès de la noblesse, dont il voulait augmenter les impôts.
Ça se comprend.
Et on l'avait abondamment caricaturé au moyen de portraits de profil découpés dans un papier noir. Et on disait à l'époque, à la Silhouette. Voilà, je termine ici l'exposé de la seule langue non indo-européenne de France. Et elle va être suivie la prochaine fois par l'examen d'une langue indo-européenne, cette fois du groupe celtique, le breton.
Merci Henriette Walter de toutes ces précisions, de tout ce que vous nous apprenez sur la langue basque. Je rappelle que cette série fait partie de la série des langues de France de Canal Academy, établie en partenariat avec la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Henriette Walter a publié plusieurs ouvrages, dont on va en citer deux. Un très savant, La dynamique des phonèmes dans le lexique français contemporain, c'est chez Droz. Et puis, Aventures et mésaventures des langues de France aux éditions du Temps. Et cela, c'est beaucoup plus accessible pour un large public. Merci et à une prochaine émission que vous consacrerez donc au breton. Retrouvons maintenant Clément Moutier pour découvrir la langue basque en musique.
C'est en musique maintenant que Canal Academy, en partenariat avec le Hall de la Chanson, vous propose de découvrir la langue basque. Écoutons en premier lieu un extrait anonyme d'un compteur de points lors d'une partie de pelote basque. Admirer son habileté verbale et musicale. C'est maintenant Benat Achiari qui interprète un extrait de sa chanson Lili Pourpréa. Vocaliste, mais aussi percussionniste, Benat Achiari aime mêler le chant traditionnel basque au jazz ou encore à la musique contemporaine. Il évoque ici son rapport avec la tradition et la modernité.
Pour moi, il n'y a pas de différence. La tradition, c'est de la création. Et une tradition vivante est le signe même que la source continue de couler. Je n'ai pas connu de revival ni de néo-folk. Donc pour moi, entre les deux, il n'y a pas de barrière. Une tradition, pour moi, c'est une création permanente. Être le contemporain de soi-même, absolument, mais plus. Parfois, le temps linéaire se cabre, il se met à la verticale. Et le temps est parfois aboli. Nous pouvons ressentir quelques brefs instants que nous sommes aussi de toujours béticois. Donc ça, c'est une sensation qui nous relie toutes les plaques tectoniques entre elles et qui abolit parfois le temps et qui nous montre bien qui nous sommes et d'où nous sommes.
Canal Academy vous invite à consulter les autres langues régionales évoquées par Henriette Walter, professeure de linguistique à l'Université de Haute-Bretagne. Dans la prochaine émission, elle nous fera voyager à l'ouest de la France pour s'intéresser à la langue bretonne. Canal Académie vous invite également à découvrir en chanson les langues régionales de France sur le site du Hall de la chanson www.lehalltoutattaché.com.